Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement l'équipe de Silencio pour m'avoir invité à participer à ce séminaire sur silence et introspection, ainsi que la clé des langues pour nous permettre de diffuser nos activités. Je présenterai aujourd'hui une communication intitulée « Les marginalia de la première traduction complète et glosée en castillan des héroïdes d'Ovide, outils silencieux de l'introspection textuelle ». Les héroïdes d'Ovide sont un recueil de 21 lettres fictives des héroïnes de la mythologie gréco-latine à leurs amants ou maris, qui les ont abandonnées à leur triste sort. Dans ces lettres monologues, on peut dire que les héroïnes procèdent à une introspection de leur histoire amoureuse. Introspection durant laquelle elles blâment leurs amants pour leur comportement qui n'a rien d'héroïque. L'introspection amoureuse se fait, malgré les nombreuses exclamations lyriques qui parsèment le texte, dans un certain silence, puisque les héroïnes ne reçoivent jamais de réponse à leurs plaintes. D'ailleurs, le lecteur averti connaît en général le sort de ces héroïnes, qui pour certaines ne reverront jamais leurs amants, soit parce qu'ils les ont abandonnées à tout jamais, comme c'est le cas pour Ariane, soit parce qu'elles se donnent la mort dans un élan de désarroi, comme c'est le cas de Didon par exemple. La version des héroïdes qui nous intéresse aujourd'hui est celle que l'on trouve dans le manuscrit 5516 de la bibliothèque colombine de Séville, qui contient l'unique témoin de la première traduction complète et glosée en castillan des héroïdes. Il s'agit d'une traduction issue de la traduction catalane réalisée en 1391 par Guillaume Nicolas à la demande de la reine Violante de Bar, reine d'Aragon. La traduction castillane semble être contemporaine ou légèrement postérieure à la traduction catalane. Elle est aussi la seule à nous transmettre les gloses, ces notes marginales, vulgaires, puisque les gloses catalanes n'apparaissent dans aucun des deux témoins conservés de la traduction, malgré des appels de gloses présents dans le témoin fragmentaire B, conservé à la Bibliothèque de Catalunya. Avant toute chose, il nous faut préciser que lorsqu'on parle de la première traduction castillane complète, il s'agit du canon de diffusion antérieur à 1420. En effet, si l'on se penche un peu plus sur la composition des héroïdes de Séville, on se rend compte qu'il n'y a pas 21 mais 20 lettres, et que certaines ne sont pas complètes. Le manuscrit de Séville, comme les autres traductions ou témoins complets qui circulent avant 1420, omet l'héroïde 15, de Sappho à Fan, les vers 39 à 145 de l'héroïde 16, de Paris à Hélène, et arrête l'héroïde 21, de Sidipé à Acontus, au vers 14. Dans cette communication, nous allons nous centrer surtout sur les marginalia de la première traduction complète et glosée en castillan des héroïdes d'Ovide, que j'appellerai S. En effet, celles-ci représentent un outil silencieux essentiel à l'introspection textuelle. Les marginalia sont les gloses marginales que l'on trouve dans le manuscrit. Elles jouent le rôle des notes de bas de page en apportant des informations complémentaires comme des précisions sur certains mythes qui sont évoqués par une lettre, donnent des synonymes pour certains mots dont la traduction à partir du latin peut être problématique, des précisions sur la stratégie rhétorique adoptée par les maîtrises de la lettre, etc., etc. Ces marginalia occupent une place importante dans le témoin de Séville. Il y en a en moyenne 70 par lettre, et elles sont le reflet d'une longue tradition textuelle de lecture et de commentaires des héroïnes. Cependant, leur réception est fragile. En effet, leur situation marginale dans le folio, c'est-à-dire dans la page, les rend facilement silenciables. Ce qu'on peut d'ailleurs voir à travers les témoins catalans qui, malgré le fait qu'on sache que la reine Violante de Bar avait demandé une traduction glosée, et le fait que les appels de glose soient lisibles dans le manuscrit B, il ne reste aujourd'hui aucun témoin, ou très peu, de ces gloses catalanes. Quand elles sont conservées, les gloses s'avèrent parfois silencieuses, puisque leur état de conservation n'en permet pas la lecture. D'ailleurs, dans le manuscrit S, on observe régulièrement ce phénomène. Enfin, nous pouvons dire que les gloses relèvent d'un élément de lecture silencieuse. Leur place marginale laisse le choix au lecteur de les lire ou non. Il a donc en quelque sorte le pouvoir de leur donner une voix, et lorsqu'il les lit, on peut penser qu'il les lit dans sa tête. Nous pourrons donc étudier le rôle des marginalia dans l'introspection textuelle selon trois axes. Tout d'abord, nous verrons comment les gloses participent à l'introspection dans le récit amoureux, via leur fonction d'explication des références mythologiques, lexicales, etc. Nous verrons ensuite comment les gloses peuvent permettre une introspection du texte par le texte, c'est-à-dire qu'elles donnent accès aux techniques rhétoriques des narratrices et renforcent ainsi leur stratégie discursive. Enfin, Nous conclurons par l'étude des marginalia comme outil de l'introspection de la tradition textuelle. Dans un premier temps, les gloses sont des actrices de l'introspection dans le récit amoureux. C'est le rôle le plus évident que les gloses peuvent jouer dans le domaine de l'introspection. En effet, les gloses sont un outil précieux pour la compréhension du texte et le lecteur peut en avoir plus ou moins besoin selon sa connaissance du mythe original ou selon sa compréhension globale du texte. Notons que les gloses, qui permettent l'introspection dans le récit amoureux, peuvent être des gloses de nature mythologique ou mythographique, c'est-à-dire des gloses qui expliquent le mythe, les versions du mythe. Des gloses de nature lexicale, c'est-à-dire des gloses qui donnent des synonymes ou des définitions pour des termes qui peuvent prêter à confusion. Des gloses d'érudition, c'est-à-dire des gloses qui permettent d'apporter une précision sur une référence sans que l'absence d'explication nuise particulièrement à la bonne compréhension du texte. Des gloses qui explicitent les comportements amoureux et qui ont le plus souvent une valeur de vérité générale. Voyons quelques exemples. Dans ces exemples tirés de l'héroïne numéro 2 de Phyllis à Démophon, la première, qui commente la périphrase « haber merecido » est une glose d'ordre lexical. En effet, elle explicite le sens du verbe « merecer » et apporte une dimension morale au texte en plus de valoriser l'action de Phyllis « más fue mérito que pecado » qui a offert l'hospitalité à Démophon, un étranger. La deuxième glose est plutôt d'ordre mythologique puisqu'elle retrace la généalogie d'Égée, le grand-père de Démophon. Cela permet au lecteur de resituer le personnage dans la mythologie et de retrouver les liens qui unissent les différents personnages. De plus, la glose apporte des précisions sur le mythe d'Égée, puisqu'elle nous dit que Égée a été le père de Thésée et que Thésée est le père de Démophon. Elle raconte un tout petit peu l'histoire d'Égée qui se jette dans la mer en apprenant la mort supposée de son fils et rappelle que l'autre traducteur a commis une erreur en évoquant Égée, alors qu'en fait il fait référence à Neptune, le père de celui-ci, qui est le dieu de la mer. Elle permet donc à la fois d'apporter des précisions sur le mythe d'Égée et de rétablir la référence exacte à Neptune, le dieu de la mer, qui, contrairement à Égée, a le pouvoir d'apaiser la mer comme c'est évoqué dans le texte. Dans la glose de l'Héroïde 4 de Phèdre à Hippolyte, on retrouve la fonction de commentaire du comportement amoureux. L'expression commentée est « con el mi brazo movido » qui s'inscrit dans un passage où Phèdre décrit son goût pour la chasse aux cerfs, en forêt, accompagné de chiens. Le commentaire se construit en deux parties. « Así como tú fazes » qui semble être une précision apportée par Phèdre elle-même, comme le laisse penser l'usage de la deuxième personne du singulier, et une deuxième partie, « manera es de enamorados » construite selon une modalité impersonnelle, avec le pluriel, « enamorados » et le présent de vérité générale. La glose commente les comportements amoureux en général, et notamment le mimétisme de l'amant face à l'attitude de l'être aimé. En l'occurrence, ici, Phèdre imite Hippolyte, l'homme qu'elle aime, en allant à la chasse au cerf accompagné de chiens. On retrouve une glose similaire dans l'Héroïde 6 d'Hypsipylée à Jason, qui met en avant la folie amoureuse de Médée, la rivale d'Hypsipylée. La glose qui suit, en revanche, ne commente pas le comportement amoureux, mais permet de mettre en évidence les connaissances en sorcellerie de Médée. On fait référence à ses experimentos, ses adivinaciones, ainsi que le fait de chercher des ossements. Cela permet à un lecteur qui ne connaîtrait pas ses comportements d'associer l'attitude de Médée à celle de la sorcière ou de la magicienne. Nous avons donc vu que les gloses permettent une forme d'introspection dans le récit amoureux, soit pour expliciter des références mythologiques afin de rendre la lecture et la compréhension du texte plus aisées, soit décrire les comportements amoureux en général, ce qui leur donne un rôle d'analyse du récit amoureux. Dans ces gloses, la perspective adoptée est extérieure au récit. C'est une voix impersonnelle qui donne des explications sur les comportements amoureux, comme si le texte ovidien n'était qu'un prétexte pour analyser les comportements amoureux illustrés par les personnages. Cependant, dans les gloses de Hesse, nous trouvons un autre type de glose qui permet une analyse des comportements amoureux avec une perspective bien plus interne. C'est ce que nous allons voir dans un deuxième temps. Nous voyons donc comment les gloses sont des actrices majeures de l'introspection textuelle qui mettent à jour les stratégies discursives. Dans S, en effet, les gloses permettent d'une part d'analyser les comportements amoureux des différents personnages et d'autre part, elles permettent d'analyser la stratégie discursive des héroïnes. C'est ce que nous appellerons l'introspection textuelle. Cette introspection textuelle rejoint, d'une certaine façon, le sens le plus psychologique du terme introspection. C'est-à-dire celui qui fait référence au fait de parler de l'effort d'une conscience qui analyse ses pensées, ses sentiments, ses états d'âme, qui réfléchit sur eux à des fins d'investigation psychologique. Nous avons repéré des procédés principaux pour l'introspection textuelle. Le premier est le fait d'adopter un ton général, construit en général à partir du présent de l'indicatif, pour commenter la stratégie rhétorique de l'héroïne. Le deuxième est plus complexe, puisqu'il repose sur la création d'un dialogue dans le monologue, un dialogue qui donne régulièrement la parole aux personnages masculins, qui sont majoritairement silenciés dans ce recueil, mais c'est une parole qui, comme nous allons le voir, n'a que peu d'impact, car elle est le plus souvent introduite par un verbe au mode conditionnel. Voyons à présent quelques exemples. L'introspection textuelle se fait, comme je l'ai dit, via le présent de vérité générale. Dans la première glose que nous allons étudier, qui se trouve dans l'héroïde numéro 1 de Pénélope à Ulysse, nous voyons que la voix qui s'exprime est extérieure au texte. Elle commente, c'est la voix du commentateur qui, à la manière d'un narrateur omniscient, précise la pensée de Pénélope et donc ses propos. Je vous lis la glose. Sabiendo Penélope que Ulysses amaba a Talamaco, torna más a hablar del, por tal que lo enduziese por venir a ella. On retrouve en effet donc le tour impersonnel au gérondif, sabiendo Penélope que, ainsi que le présent de l'indicatif, qui a un rôle purement descriptif, torna más a hablar. Et la conjonction consécutive, por tal que plus subjonctif, qui met en évidence la stratégie rhétorique de Pénélope quand elle évoque le nom de son fils, Télémaque, qu'Ulysse aime tant. Le but de Pénélope étant donc ici d'attendrir Ulysse pour qu'il revienne plus vite retrouver son fils, à défaut de vouloir la retrouver elle. Dans la glose suivante, tirée de l'héroïde 2 de Phyllis à Démophon, on retrouve également un commentaire qui participe à l'introspection textuelle avec une perspective extérieure. Dans ce cas, le commentateur explicite le rôle de l'interjection utilisée par Phyllis « a loca », ce qui permet en plus d'analyser la stratégie rhétorique de l'héroïne, de mettre en évidence l'aspect moral de ce comportement. En effet, la glose nous indique que, par cette interjection, reprende a sí misma, así como de aquel hombre de dire que ha tajado el palo con que se ha ferido. C'est-à-dire qu'il explique donc le rôle de cette interjection qui a pour but d'auto-punir d'une certaine façon, comme si elle se flagellait elle-même, Phyllis, d'avoir laissé l'hospitalité à Démophon. Le commentateur explicite également la présence et la fonction de certaines figures rhétoriques, ce qui permet de disséquer la construction du texte ovidien et d'en comprendre la logique argumentative, qui est toujours extrêmement soignée car Ovide n'est pas seulement un poète, il est aussi un maître dans l'art de la suasoriae, un genre d'écrit à caractère argumentatif. C'est ce qu'on peut observer dans cette glose de l'héroïde numéro 8 d'Hermione à Oreste. Hermione prend la parole, dit qu'elle ne racontera pas de choses fausses au sujet du fleuve, ni au sujet de Jupiter qui s'est caché entre les plumes, c'est-à-dire qui s'est transformé en cygne pour aller retrouver Leda. Et la glose nous dit « Orestes dice las falsías del signo, que non era verdadero signo, quando yazia Leda, madre de Helena. » Donc, nous, on retrouve un rappel du mythe. Et ensuite, le glossateur continue en disant « Aquí a una color de retórica que a nombre preocupación, que dice que non lo dirán, y comienza a contar aquellas de su linaje que son estadas tomadas por fuerza. » Le commentateur, donc, nous explique qu'il y a una color de retórica, c'est-à-dire une figure rhétorique, une figure de style, la nomme et nous explique quelle est son utilité. L'autre procédé, plus complexe, consiste à créer l'illusion d'un dialogue entre les personnages de la lettre. Nous précisons bien qu'il s'agit d'une illusion, car les lettres sont bien rédigées par une seule personne, dans une situation où l'héroïne ne peut pas être en contact avec son interlocuteur puisqu'elle se trouve dans une situation d'abandon. C'est ce que nous voyons par exemple dans l'héroïne numéro 3 de Briseis à Achille. Briseis nous dit « Muchas vegadas me quise tornar engañando aquel que me guardaba, mas pudiera ser algún enemigo troyano o griego que tomase a mí temerosa. » Le fragment « Muchas vegadas » est glosé par « Podría decir Achilles, si tú amas a mí, ¿por qué non vienes a mí escondidamente ?» Responde, etc. Briseis, qui a été enlevée par Achille, à Achille par les Grecs, notamment Agamemnon, écrite à ce dernier, Achille, qu'elle a souvent voulu tromper son ravisseur pour s'échapper et le retrouver, mais qu'elle ne l'a pas fait de peur d'être rattrapée par un ennemi troyen ou grec. On pourrait se contenter de cette phrase de Briseis. Cependant, la glose, qui commente Muchas Begadas, nous apporte un nouveau point de vue, celui d'Achille, dont on sait qu'il est absent. Cette perspective est introduite par un verbe au conditionnel, podría decir Achilles, qui laisse place à une prise de parole en première personne, du singulier, comme si Achille était soudainement présent. Cette glose crée ainsi une illusion de dialogue entre Briseis et Achille, une illusion maintenue par l'usage du conditionnel qui affaiblit la prise de parole d'Achille. En effet, le conditionnel est le mode de ce qui n'est pas réalisé. Le caractère conditionnel de la prise de parole n'en fait pas moins un élément rhétorique important. En effet, la voix d'Achille permet de mettre en évidence une interrogation que pourrait tout à fait formuler un lecteur. Si Briseis aime Achille, pourquoi ne fuit-elle pas en cachette pour le retrouver ? La réponse se trouve dans la lettre et est introduite dans la glose par le verbe responder à la troisième personne du singulier, mais sous forme de déclaration, comme si la question n'avait jamais été posée. Nous pensons que dans ce cas, et comme c'est fréquent tout au long des héroïdes commentés de S, la création de ce dialogue fictif entre l'émettrice et le destinataire sert à renforcer la logique rhétorique ou argumentative de l'héroïne. Le héros prend la parole via un mode qui lui donne peu de consistance, car l'argumentation de l'héroïne est solide. Elle ne peut agir autrement que comme elle le fait. Elle n'a pas d'autre choix, comme elle le montre par sa démonstration. Le dialogue fictif n'est là que pour renforcer le bien fondé de ses propos, la légitimité de son attitude. On peut observer cette même stratégie dans les gloses suivantes, de l'héroïne numéro 5, de Œnone à Paris, et de l'héroïne numéro 6, d'Hypsipylée à Jason. Remarquons qu'il n'est pas rare que les deux techniques de commentaire puissent se cumuler dans une même glose. Il arrive en effet que le dialogue fictif donne lieu à un raisonnement sur les relations entre les deux personnages ou sur les relations amoureuses en général. Nous en voyons d'ailleurs deux exemples dans l'héroïne numéro 4 de Phèdre à Hippolyte. Dans cette glose, le dialogue fictif permet de justifier le recours à la lettre plutôt qu'à un échange oral, car c'est un moyen plus simple de faire part de ses sentiments, notamment lorsqu'ils nous font éprouver de la honte ou de la gêne, comme c'est le cas pour Phèdre. Notons que le ton change entre les deux parties. Une fois le dialogue terminé, qui commence par cette formulation « Podría decir Hipólito, tú envías a mi letra, porque non me lo dices boca a boca ?» et avec la réponse de Phèdre. Et une fois que le dialogue est terminé, donc, c'est la voix impersonnelle qui domine, avec des formules en troisième personne du singulier et au présent de vérité générale, comme « Mayor vergüenza es hablar, síguese, aquel que ama », ainsi que des périphrases verbales à valeur d'obligation, « Non lo debo me mezclar, aquel que ama non debe ser ou debe mezclar ». On voit bien que le but n'est plus de recréer un potentiel dialogue entre les protagonistes, mais bien de donner un avis sur le rapport qui peut exister entre le sentiment amoureux et le sentiment de honte, notamment quand l'amour est de nature illicite, ce qui se prête bien à la situation de Phèdre, puisqu'elle aime le fils de son époux. Dans une autre glose de cette même lettre, on retrouve la même construction avec le dialogue potentiel pour commencer, puis un commentaire d'ordre général. Ce commentaire permet d'expliquer la logique de l'argumentation d'Œnone qui s'appuie sur un argument d'autorité, une situation vécue par Jupiter, qui a donc été autorisée par sa position élevée dans le panthéon romain. Le commentateur tente de rendre la logique argumentative encore plus évidente en s'appuyant sur un exemple plus parlant pour le lecteur médiéval, qui repose sur le même type de hiérarchie, le pape et les chapelains. Il renforce ainsi le poids de l'argument d'Œnone et permet ainsi d'illustrer les logiques d'argumentation qui fonctionnent. Les gloses, donc, comme nous l'avons vu, permettent de mettre en lumière les rouages du texte et de son argumentation. Cette mise en lumière est discrète, car elle peut facilement être passée sous silence de façon volontaire, on nommait la lecture des gloses, ou involontaire, les gloses ne sont pas transmises d'un témoin à l'autre. Malgré leur caractère discret et fragile, ce sont des outils précieux pour la compréhension du texte et de sa réception. La présence de nombreuses gloses, telles que celles que nous venons d'étudier, est la preuve d'une longue tradition de réception et de commentaire du texte ovidien. Une tradition scolaire qui utilise le texte des Héroïdes comme un exemple pour le travail de la rhétorique. Cela signifie que les glosses sont également actrices et adjuvantes pour l'introspection de la tradition manuscrite des Héroïdes d'Ovide. Les glosses que nous venons d'étudier ne sont certainement pas toutes originales, c'est-à-dire propres à la traduction de Séville. En effet, d'après les investigations de Josep Pujol, l'éditeur des Héroïdes traduites en catalan par Guillaume Nicolau, cette traduction était accompagnée de glosses dont le seul témoin serait celle de S, c'est-à-dire leur traduction en castillan. Cependant, ces potentielles glosses catalanes ne sont pas non plus intégralement inventées par Guillaume Nicolau. Une grande partie provient en effet de celles que l'on retrouve dans les commentaires médiévaux rédigés en latin au cours des XIIIe et XIVe siècles. La tradition la plus présente dans les glosses de Hesse est celle des Codices Mineres, c'est-à-dire une branche spécifique de commentaires de Guillaume d'Orléans, connu sous le nom de Boursari, sachant que les Boursari sont des commentaires qui ciblent des passages très précis du texte ovidien, une sorte de compilation des commentaires sur les éléments les plus importants, qui peuvent donc tenir dans une petite bourse, d'où le nom, alors que les Codices Mineres retranscrivent l'intégralité du texte ovidien et le commentent tant dans l'interligne que dans la marge. Cette tradition textuelle peut aisément rester silencieuse si l'on ne procède pas à une étude minutieuse des sources, et d'ailleurs, elle ne permet pas de lever le voile sur tous les secrets de la tradition textuelle, puisque nos recherches et celles de nos collègues comme Josep Pujol montrent que certaines gloses restent mystérieuses encore dans leurs origines. Ajoutons à cela les références parfois un peu plus bruyantes, car explicites, qui se trouvent dans les gloses et qui permettent donc d'établir une sorte de fil d'Ariane entre les sources. Ces citations, plus ou moins précises, nous permettent d'identifier quels sont les textes auxquels les commentateurs ont eu recours pour travailler le texte ovidien, pour établir des comparaisons ou pour fixer des versions du mythe. Les références peuvent parfois être très vagues, comme « Segunt los poetas », comme on le voit dans l'Héroïde numéro 8, ou d'autres fois, elles peuvent faire référence à un auteur, comme c'est le cas dans l'Héroïde numéro 2, où on a une référence à Vergilio, c'est-à-dire Virgile, ou dans l'Héroïde 18, où on a une référence à Ovidio, donc Ovide. L'Héroïde 2 fait également référence à Cerveri de Girona, un poète catalan, mais du Moyen-Âge. Enfin, parfois, la référence est plus précise, puisque nous avons également le titre de l'œuvre à laquelle le commentateur se réfère, comme c'est le cas dans l'Héroïde 4, par exemple, où on a une référence aux Remedia de Ovidio, c'est-à-dire les Remedia Moris d'Ovide, ou les références aux Historias de Troia dans l'Héroïde numéro 1 et dans l'Héroïde numéro 13, qui sont une compilation d'histoires troyennes de référence au Moyen-Âge. Les gloses, ces éléments marginaux et fragiles, sont donc des outils essentiels pour l'introspection textuelle. En effet, elles permettent dans un premier temps d'aider le lecteur à comprendre et à analyser le discours amoureux, et elles permettent aussi de légitimer le discours féminin, de renforcer sa logique argumentative via l'insertion d'un dialogue fictif au conditionnel avec le personnage masculin. Cela débouche régulièrement sur des réflexions au sujet des comportements amoureux en général. Enfin, les glosses sont un outil indispensable pour qui veut procéder à une introspection de la tradition textuelle, puisqu'elles permettent de retracer le chemin du fil des sources ou, à défaut, des modèles qui ont servi à établir le texte sur lequel nous travaillons. Je vous remercie pour votre attention.